Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir à tout le monde. Alors, merci à tout le monde d'être venu. Merci à Florent Gabaron-Garcia d'être là ce soir. Florent Gabaron-Garcia, qui est donc psychanalyste, psychologue, maître de conférence à l'Université Paris 8, qui a travaillé à la clinique de la Borde et qui a fait paraître précédemment aux éditions de La Lenteur l'héritage politique de la psychanalyse en 2018. Et donc ce soir, qui va nous parler de l'histoire populaire de la psychanalyse parue aux éditions La Fabrique. Donc, l'histoire populaire de la psychanalyse, déjà le titre peut faire un peu effet presque de paradoxe, tant on a une idée un peu de la psychanalyse comme étant une pratique bourgeoise, privilégiée, voire normative, chère, et une histoire populaire, donc une histoire hétérodoxe, qui met en lumière des luttes et des résistances, des choses qui sont laissées un peu dans l'ombre par une histoire dite des vainqueurs, si on peut dire ça comme ça. Et vous parlez donc dans votre livre d'une distinction entre justement la psychanalyse, tel que vous en faites l'histoire, et le psychanalysme en tant que discours dominant qui est retenu en fait de l'histoire officielle de la psychanalyse. Et donc vous en faites cette histoire dans ce livre en séquençant, donc c'est un livre qui reprend chronologiquement à partir de Freud, puis ensuite avec Reich, donc au début en Allemagne. C'est à la fois historique et aussi géographique, il y a des déplacements avec Marie Langer en Espagne, puis en Argentine, et d'autres, enfin Toskel, le SPK de Heidelberg. Et donc pour faire le lien donc, entre psychanalyse et révolution sociale, à la fois d'un point de vue historique, mais aussi en quoi la psychanalyse peut être elle-même révolutionnaire. Donc peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre. Et peut-être aussi de comment est-ce que, entre le précédent livre et celui-là, quelle a été la nécessité en fait, de prolonger et d'approfondir ces questions.
Bonjour à tous, merci d'être tous là, merci d'être tous là, merci pour cette introduction. Oui, alors effectivement, il y a un précédent livre qui est un peu la préhistoire de celui-là, pas au sens péjoratif du tout du terme, mais au sens où celui-ci, donc l'histoire populaire, est la poursuite du premier. Donc moi, au départ, je ne suis pas du tout historien. Comme on vient de le rappeler, je suis psychologue, psychanalyste, et à ce titre, je suis amené à travailler avec des personnes en très grande souffrance psychique, que on dit psychotiques. Voilà. Mon problème au départ, c'est que dans mon milieu, certains collègues et certains courants analytiques déclaraient le traitement analytique pour les personnes en grande souffrance comme étant impossible. Voilà. Donc au départ, j'ai un problème très pratique. C'est que je suis psy avec des personnes qu'a priori on me dit que je ne peux pas traiter ou dont je ne peux pas m'occuper. Alors évidemment, le champ analytique, c'est un immense champ de bataille. C'est ce que Kant disait de la philosophie, mais on peut également l'appliquer au champ de la psychanalyse. Hein. Il y a une myrielle d'écoles et de courants, parfois contradictoires. Hein. Et donc, moi, évidemment, cette formation première où on me disait que ce n'était pas possible finalement de travailler avec ces personnes, ça ne me convenait pas. Et j'ai trouvé un courant qui, a priori, semblait minoritaire, qui était celui de la pratique institutionnelle. Alors, je ne sais pas si certaines personnes sont familières ici dans la salle. Je vois des oui, mais bon, peut-être tout le monde n'est pas familier avec cette approche, donc je vais peut-être en dire un mot. Généralement, c'est cette pratique qui se reconnaît sous le syntagme de psychothérapie institutionnelle, pour être plus précis. Et donc, je me suis éloigné des écoles parisiennes et des universités parisiennes pour aller me former à un endroit où on pratique la psychothérapie institutionnelle, qui est la clinique de la Borde, du côté de Blois. Hein, c'est un endroit qui existe toujours. Et évidemment, à cet endroit, il y a beaucoup de personnes dites psychotiques, donc des personnes qui vont très très mal, pour le dire simplement, qui ont une vie invivable. Et on travaille avec la psychanalyse. Voilà. Alors, cet endroit a aussi ceci de particulier, c'est que la psychanalyse y est en extension, on pourrait dire. La psychanalyse, comme je disais, c'est un immense champ de bataille, donc il y a plusieurs conceptions de la théorie, comme de la pratique, hein, puisque toute pratique se soutient toujours d'une certaine théorie et de certains concepts. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir un peu comment ça marche, les concepts, quelle est la mécanique des concepts, parce que ça va avoir des répercussions dans la pratique, et encore plus que dans les autres sciences humaines et sociales, puisque la psychanalyse, comme vous le savez, c'est d'abord quand même une pratique avant d'être une théorie. Alors, sur quoi s'appuie la psychothérapie institutionnelle? Eh bien, je parlais de psychanalyse en extension, au sens où c'est une psychanalyse qui se limite pas à la psychopathologie, hein, qui ne se limite pas au malaise en tant qu'il serait d'abord individuel. C'est une psychanalyse en extension au sens où la dimension des déterminismes sociaux est prise en compte. Hein, on peut le dire comme ça, on peut le dire de différentes manières. Classiquement, dans ce champ, on dit que la psychothérapie institutionnelle a deux jambes. La freudienne, hein, donc tout ce qui est relatif à la psychologie individuelle, etc., et l'inconscient, et d'autre part, le marxisme. Donc Freud et Marx. On appelle la double aliénation, l'aliénation sociale et l'aliénation mentale. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de pouvoir articuler ces deux causalités qui sont hétérogènes, mais évidemment qui ont plein de points de recoupement. Hein, ça se noue. Donc, pour vous donner une idée un peu plus précise, parce que peut-être c'est abstrait, vous voyez, dans la version, disons, je vais être méchant, parisienne de la psychanalyse, on ne fait pas de travail avec les personnes psychotiques, où on fait des présentations de malades, ce qui n'est pas mieux. Et dans la version dont je vous parle, évidemment, on vit avec les psychotiques chaque jour et on organise l'institution avec eux. Et on travaille à la fois d'un point de vue psychopathologique, on va dire, mais également du point de vue de l'organisation micropolitique de tous les jours. Alors ceci tient à une raison simple, qui est une raison pratique, hein, c'est que si vous ne travaillez pas à l'hôpital psychiatrique, ça devient très vite un lieu de ségrégation où on enferme les gens. Bon, et ce n'est pas dû forcément aux membres de l'institution, c'est que l'institution asilaire, au départ, ce n'est pas forcément fait pour soigner. Hein. Je rappelle quelques coordonnées, hein, c'est le décret de 38 qui fonde la police et la psychiatrie. Si vous faites quelque chose qui trouble l'ordre bourgeois et que vous êtes conscient, vous irez à la police. Par contre, si vous entendez des voix, alors on vous enferme dans l'enceinte psychiatrique. Donc voilà, il y a un lest originel au départ avec l'avènement de la psychiatrie. Et donc, les un certain nombre de personnes dans l'après-guerre qui travaillaient en psychiatrie et qui étaient à la fois analystes et très conscients des enjeux politiques, à la fois au niveau clinique. La clinique, c'est tout ce qui est la relation au patient, si vous voulez, mais aussi à un niveau plus large, c'est-à-dire c'était souvent des personnes issues du communisme ou du marxisme. Pas mal de psychiatres, hein, notamment dans l'après-guerre, voulaient pas être des garde-fous. Hein, et donc, ils ont essayé de traiter l'institution asilaire et ses formes ségrégatives en repensant le mode d'organisation. Voilà, donc Marx et Freud, alors ça donne effectivement, on pourra peut-être en parler dans un second temps, mais ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il y a un lien entre clinique et politique qui est essentiel, encore plus quand on travaille avec des psychotiques, parce que si vous voulez, si le psychiatre se prend pour le psychiatre, l'infirmier pour l'infirmier, le psychologue pour le psychologue, à la fin, le fou se prend vraiment pour le fou. Hein, voilà. Donc, il y a tout un travail analytique qui est fait sur les identifications imaginaires, les rôles sociaux, les fonctions, etc. Voilà. Donc, le premier bouquin parle pas mal de cette expérience. Alors, à première vue, cette expérience est plutôt... en tout cas, c'est comme ça que ça m'a été transmis. Et puis, c'est comme ça que ça s'est présenté. C'est plutôt une expérience qui serait ou qui semblait être minoritaire et somme toute isolée. En réalité, et c'est la raison de ce second livre, c'est que je me suis rendu compte que l'expérience de la psychothérapie institutionnelle, et en particulier l'expérience donc française à la clinique de Laborde, qui commence en 1953, autour d'Houry et de Félix Guattari, s'inscrit dans une histoire bien plus large et dans une généalogie plus ancienne que j'ai découvert à l'occasion de mes investigations. Donc. Et il se trouve que le fondateur de la psychothérapie institutionnelle que tu as évoqué tout à l'heure, qui est François Tosquelles, qui est catalan et qui était à Barcelone pendant la Révolution, qui était membre du PUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, avec aux côtés de la CNT, a lui-même été formé par les analystes émigrés de Vienne, c'est-à-dire par les collègues de Freud des années 20. Hein. Alors souvent, dans le champ de la psychothérapie institutionnelle, on s'arrête à Tosquelles et à la guerre d'Espagne. Et j'ai été très étonné de découvrir que non, en fait. En réalité, il y a toute une préhistoire, la psychothérapie institutionnelle. Et finalement, la psychothérapie institutionnelle, ça m'est apparu donc après coup, n'est qu'une des branches d'un plus vaste réseau relatif à une psychanalyse politisée et dans laquelle le lien entre clinique et politique est parfaitement assumé. Du coup, je me suis mis à faire davantage de recherches parce qu'évidemment, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on m'avait appris dans les écoles de psychanalyse, ni non plus dans les universités. Alors, il se trouve que par ailleurs, comme tu l'as évoqué, la psychanalyse contemporaine, ces dernières années, s'est malheureusement illustrée par tout un tas de positions particulièrement réactionnaires. On peut dire qu'ils étaient de tous les combats très à droite, et généralement toujours au nom de la neutralité. Alors ça aussi, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on a des collègues, bon, ils sont souvent beaucoup plus âgés que moi, il y a peut-être aussi un problème de génération, hein. Un certain nombre de collègues qui ont pris des positions réactionnaires, alors ça s'est enchaîné, hein. Depuis une quinzaine d'années, ça ne s'arrête pas. Que ce soit sur les jeunes de banlieue qui seraient des psychotiques, sur le Pax, sur le mariage pour tous, sur MeToo, sur les gilets jaunes, et plus récemment encore sur les études postcoloniales et l'intersectionnisme, qui ça serait la fin de la culture. Et donc il y a un certain nombre d'énoncés, quand on lit un peu cette littérature, qui sont assez étonnants. C'est assez stupéfiant. Surtout que la rhétorique, généralement, de ce type d'assertion repose sur, le plus souvent, une prétendue neutralité, comme je disais. Si au moins il pourrait dire, bah, écoutez, moi je suis réactionnaire, je suis pour la famille normale, la normalité c'est bien. Non, après tout, on peut défendre peut-être une vision passéiste de certaines formes de domination, mais autant le dire ouvertement. Non, là ça se fait au nom d'arguments soi-disant psychanalytiques, au nom d'une vérité éternelle relative à l'inconscient. Et donc c'est des arguments souvent très raffinés, dans une langue aussi très technique. Alors évidemment, j'ai beaucoup travaillé cette langue, donc j'ai l'avantage de pouvoir objecter aussi dans l'idiome. Et donc je peux dire avec assurance aujourd'hui que un certain nombre de ces messieurs, notamment un certain nombre de docteurs lacaniens, lisent mal leur maître. Mais ça, c'est aussi l'objet du premier livre. Il y a toute une discussion, une dispute savante au niveau de l'exégèse. Voilà. Donc, ce livre, évidemment, c'est un livre de conjoncture, je dirais, au sens où, finalement, j'ai écrit dans ce livre le récit qui me manquait, hein, à moi, déjà, pour travailler. Parce que quand vous avez plein de collègues beaucoup plus âgés qui vous disent qu'on ne peut pas travailler avec les psychotiques, que la psychanalyse n'a aucun rapport au champ politique, surtout pas. Et c'est dit avec une assurance, il ne faut pas plaisanter, hein. Ils ne sont pas très drôles. Ce qui n'est pas très bon signe pour la psychanalyse, évidemment. Parce que c'est des milieux où on rit peu. Or, le rire est évidemment une formation de la conscience tout à fait importante et décisive. Bref, je vois certains qui rigolent, mais je pense qu'ils doivent connaître ces milieux. Enfin, toujours est-il que ce second livre, finalement, prolonge le premier. D'ailleurs, dans le premier, il y a un premier chapitre qui s'appelle « Pour une histoire populaire de la psychanalyse », où j'avais dégagé les quelques éléments que, dans ce second livre, donc, j'ai poursuivi d'approfondir. Et j'ai été très étonné moi-même de découvrir, en réalité, une histoire qui, à minima, a été refoulée de mon champ. Hein ? Donc, dans le livre, j'essaie de délivrer quelques hypothèses pour rendre compte de cet oubli. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'actualité des livres qui sortent en ce moment, Hervé Mazurel a sorti un livre qui s'appelle L'inconscient ou l'oubli de l'histoire. Donc, c'est un historien qui s'interroge sur le fait que les analystes oublient l'histoire. Or, précisément, mon livre est une réponse à Mazurel. On s'est d'ailleurs rencontrés parce qu'il m'a sollicité. C'est des livres quasi contemporains. Effectivement, il y a un oubli de l'histoire. Moi, je fais une hypothèse plus rude que lui. Soit un oubli, peut-être un refoulement, mais peut-être c'est plus grave. Hein, et donc dans ce livre, j'explore également donc différentes figures des analystes engagés. D'abord pour la séquence des années 20, où en réalité, comme vous le savez, cette séquence est particulièrement un moment de révolution, hein, de révolution politique. Il y a la révolution russe, la révolution hongroise. C'est la chute de l'Empire aussi, austro-hongrois. Et donc Freud est à Vienne. Il suit de près la chute de l'Empire et il ne témoigne d'aucune nostalgie, bien évidemment. Dans une des correspondances avec Ferenczi, il dit même que les Habsbourg, en partant, ont rien laissé sauf un tas de conneries. Faut savoir également que Freud soutenait Victor Adler. Donc Victor Adler, c'est un des fondateurs de la Seconde Internationale, dont Trotsky faisait un portrait élogieux. Donc on a à ce moment-là un Freud qui, d'ailleurs, comme tous ses collègues, est très très à gauche. Bon, à la plupart des intellectuels et de cette époque, de toute façon, regardent vers l'Est. La révolution bolchévique qui est menée au départ par les femmes et qui est quand même très libertaire, en tout cas dans ses premières années libérales, suscite un grand espoir. Et il y a également à ce moment-là une révolution sexuelle. On pourra peut-être en parler également. Mais voilà, Freud est dans son époque, comme ses collègues. La plupart des analystes sont très à gauche et très investis dans les mouvements progressistes, alors que ce soit dans le socialisme. Évidemment, c'est le socialisme des années 20. Ce n'est pas le socialisme d'aujourd'hui. Et il y a tout un tas de réformes et de lois qui vont être, dans cette séquence, promues, notamment, et en particulier en Russie bolchévique, il y a tout un tas de réformes et une réforme sexuelle qui vise à libérer notamment les femmes du travail domestique. C'est le moment aussi où l'avortement est promu, il y a des cantines publiques, enfin, il y a toutes des crèches, il y a vraiment une grande émulation. Et tout ça se répand évidemment à l'Ouest. Ça devient un modèle pour les réformateurs de l'Ouest. Donc les analystes ne sont pas en reste. Quand on explore un peu cette séquence, bon, je l'ai dit, Freud soutient Victor Adler. Ferenczi, le proche compagnon de Freud, va participer à la réunion, à la révolution des conseils en Hongrie. Il sera appelé d'ailleurs par le philosophe Lukács à venir rejoindre le nouveau gouvernement des conseils pour ouvrir une chaire de psychanalyse et une clinique gratuite. Donc là aussi, c'est très intéressant de se rendre compte que la première institutionnalisation de la psychanalyse, c'est dans le deuxième pays où se passe la deuxième révolution communiste. Ça, évidemment, c'est pas des choses qu'on raconte dans les livres qu'on transmet aux étudiants. Alors, que vous dire de plus? Hélène Deutsch est proche de Rosa Luxembourg. Ernest Simmel, qui est quelqu'un aussi très important, est président de la Société des médecins socialistes, etc., etc., etc. Donc, c'est une séquence où voilà, les analystes sont très engagés dans les partis. Ils militent. Freud lui-même milite. Il va participer à une campagne du parti viennois. Donc, Vienne, on l'appelle la Vienne rouge. Alors, souvent, j'insiste sur ce point parce que Freud est toujours représenté avec son cigare, ses yeux très noirs, en bourgeois conservateur. Or, là, Freud, on peut en avoir une toute autre image, puisqu'il a participé à une campagne donc, du parti viennois révolutionnaire, qui, à l'époque, avait fait scandale du point de vue de la droite conservatrice, puisqu'il s'agissait de distribuer des layettes aux bébés des familles de chômeurs. Donc, il faut se représenter un Freud dans la Vienne rouge, dans les quartiers populaires. Vous voyez, c'est un autre imaginaire. Et je pense que les images dans le cas de la psychanalyse sont importantes. Voilà, alors, il y a ce mouvement géopolitique général qui entraîne plein de bouleversements. Les analystes s'inscrivent là-dedans et ils vont également, dans cette perspective, lancer une action qui va toucher directement la pratique analytique, puisqu'il va s'agir de créer des polycliniques. Alors, polyclinique, évidemment, ça ne s'écrit pas avec un Y, ça s'écrit avec un I de la police, hein, l'étymologie, la vie de la cité, hein, pour vraiment signer, assumer le fait que l'enjeu politique pour la psychanalyse. Hein, donc ça s'inscrit jusque dans l'orthographe. Ça va être alors c'est Freud qui lance ça lors de son discours à Budapest en 17. À ce congrès, tous les analystes, tous les ténors sont présents et son vœu où il appelle créer des centres gratuits pour les plus démunis et où il appelle aussi l'État à reconnaître l'urgence de son obligation. C'est-à-dire, son idée, c'est qu'on doit avoir accès à la cure, même si on est pauvre, et que ça doit être pris en charge par l'État, comme la tuberculose. Hein, c'est sa comparaison. Et son vœu va être entendu, puisqu'il va y avoir une douzaine de polycliniques qui, de l'Est à l'Ouest, vont s'ouvrir dans toutes les plus grandes capitales européennes. Zagreb, Paris, Berlin, Vienne, Trieste, et jusqu'à Moscou, donc jusqu'en Russie soviétique. Peut-être on pourra en reparler un peu après, parce que c'est une expérience d'avant-garde. Et voilà. Donc là aussi, généralement, on parle pas ou très peu de l'enjeu des polycliniques dans le champ de la psychanalyse hégémonique contemporaine. Donc j'étais très étonné de découvrir l'engagement des analystes. Alors peut-être je peux dire un mot sur l'Institut de Moscou. L'Institut de Moscou est intéressant parce que c'est vraiment la première institutionnalisation où c'est l'État qui prend en charge le traitement. Donc c'est gratuit. Donc, finalement, le vœu freudien de 17, là où il se réalise, c'est en Russie bolchevique. Hein. Là aussi, c'est intéressant de voir ce fait. Alors, cette institution est dirigée par une analyste qui s'appelle Vera Schmidt, qui a aussi largement disparu des annales, malheureusement. Et elle est doublement révolutionnaire, cette institution, parce que elle s'occupe des enfants. Vous savez, à cette époque, la psychanalyse pour les enfants, c'est encore assez balbutiement. On n'est pas sûr que ce soit pertinent. Il y a ceux qui s'y opposent. Il y a plusieurs écoles. Donc, c'est vraiment les débuts. Hein. Donc, la première institutionnalisation qui dure un peu plus que celle de Ferenczi en Hongrie. Hein. La révolution des conseils de Ferenczi, ça dure que 100 jours. Alors, c'est un peu court. Hein. Mais l'expérience en Russie est bien plus longue. Et Vera Schmidt donc, va ouvrir l'Institut psychanalytique de Moscou où elle va accueillir des enfants pour les traiter analytiquement, hein, comme on dit à l'époque. Alors là aussi, c'est intéressant. Souvent, on suppose qu'il y a une coupure entre l'Est et l'Ouest et que à l'Ouest, on ne regarde pas vers l'Est. C'est tout à fait faux, surtout pendant cette séquence, où au contraire, Freud regarde vers l'Est. Pour vous donner une idée, en 21, donc l'année d'ouverture de l'Institut de Moscou, hein, pour les enfants, en 21, Mélanie Klein, qui est une grande psychanalyste d'enfants, qui a une très grande œuvre, très riche, très importante dans le champ analytique, en 21, alors même que l'Institut est créé en Russie, Mélanie Klein est en train de faire un vœu prospectif qui est de dire que ça serait bien si on pouvait ouvrir un jour à l'avenir des institutions analytiques pour les enfants. Elle ne le sait pas, mais c'est déjà fait en Russie. Elle voit ça dans un avenir très lointain. Donc, à ce moment-là, Freud regarde vers l'Est et tous les analystes regardent vers l'Est. Il y aura d'ailleurs des échanges. Vera Schmidt viendra à Vienne et à Berlin pour présenter son travail. Elle sera publiée dans la revue Freudienne. Voilà, il y a tout un tas d'échanges qui vont avoir lieu. Donc voilà, cette séquence des années 20, c'est un moment très important pour la psychanalyse, puisque c'est un moment où il y a un essor peut-être sans équivalent. Et on voit comment, disons, les mouvements politiques finalement progressistes favorisent cet essor. Il y a tout un tas de revues aussi qui vont naître à ce moment-là, dont la revue Pédagogie psychanalytique. Il y a tout un travail autour nouveau autour de la délinquance qui va avoir lieu pour changer le regard sur la délinquance par les analystes. Bref, c'est un moment fondateur et généralement peu étudié, en tout cas en France, ou savamment occulté. Bah, si tu veux rebondir.
Donc là, tu parles de l'effervescence politique de l'époque, des années 20. On voit aussi dans le livre qu'il y a un moment, petit à petit, il y a un tournant donc, de ce Freud qu'on méconnaît et dont on arrive finalement à la figure de Freud qui a été retenue, donc avec une réaction, au sens vraiment de réactionnaire, une forme de répression aussi qui se met en place. Et peut-être tu peux nous parler comme ça du tournant avec notamment Reich, à la fois de la reprise d'une forme de, on va dire, hétérodoxe de la pensée freudienne et de tout ce qui a commencé à être mis en place, et comment, avec la montée aussi du fascisme en Europe à cette époque-là, il y a quelque chose qui est un enjeu qui reste très important. En plus, dans le livre, là, tu reparles, c'est comme une forme de reformulation du personnel et politique qu'on retrouve avec les féministes beaucoup plus tard. Donc la question sexuelle, comment les problèmes sexuels sont d'ordre politique et économique, et comment ça a été complètement mis de côté. Puis,
Oui, alors cette séquence des années 20 dure pas suffisamment longtemps, peut-être. Hein, comme vous le savez, les années libérales et libertaires, disons même à la gauche de Trotsky, vont pas durer. Hein. La perspective ouverte par la révolution bolchevique va se refermer dans un violent autoritarisme. Et puis Staline va remettre en place de l'ordre, hein, et le retour à la famille et à l'autorité paternelle, puisque juste avant, les révolutionnaires avaient supprimé l'autorité du chef de famille. Hein. C'est assez intéressant. Il y a même dans ces années-là une demande de changement de sexe qui va être examinée. Donc c'est vraiment des années très 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 intéressantes. Bon, les choses tournent mal. Donc ça, c'est pour la Russie. Hein. Et il y a aussi un retour à l'ordre familial et à l'autorité paternelle, retour à la femme au foyer, évidemment dans les versions également fascistes en Italie et en Allemagne avec le nazisme et le fascisme aussi en Autriche, bref. Donc la période d'émancipation, cette séquence semble en grande partie se fermer et donc il va y avoir un tournant. Alors évidemment, le tournant, c'est les années 30. Hein, en 33, Hitler est élu et il va s'en suivre une espèce d'éclatement du champ analytique. Ça aussi, c'est souvent quelque chose qui n'est pas abordé ou peu étudié, au sens où Freud, qui jusqu'alors soutenait l'engagement des analystes dans la cité, et l'avait même impulsé, va faire machine arrière. Alors on trouve ça surtout dans Le malaise dans la civilisation, qui est un grand classique dans l'œuvre freudienne, qui est un livre qui date de 1929. Et où Freud est clairement anticommuniste, hein, il le dit, c'est assumé, et où il va devenir pessimiste. Alors non pas que Freud était un grand optimiste précédemment, mais il y a dans le malaise une espèce d'acmé de son pessimisme, au sens où il va étendre ce qu'on appelle la pulsion de mort à l'ensemble de la culture. Hein ? Donc ça, c'est vraiment le geste théorique du malaise dans la civilisation. Alors pourquoi pessimiste ? Bon, déjà simplement, il l'assume, il reprend Hobbes, hein, la célèbre maxime hobbesienne, hein, l'homme est un loup pour l'homme. Hein, voilà, et il dit très clairement, aucune réforme possible ne peut changer cette nature humaine qui est sa tendance à l'agression. Alors c'est intéressant parce que peu de temps avant, c'est pas ça qu'il dit. Chez Freud, il y a une balance, si vous voulez, on peut dire, entre un pessimisme comme ça, mais qui, en 29, a atteint une telle acmé, qui est inédite dans l'œuvre freudienne. Il y a toujours chez Freud, normalement, une autre hypothèse, c'est-à-dire que on peut faire droit à une causalité sociopolitique, on peut faire des réformes qui permettront que les gens soient moins hostiles à la culture, parce que le capital sera mieux réparti. Alors lui, il ne parle pas de capital, mais il parle des classes lésées. Alors vous trouvez ça juste dans le livre avant, qui est L'avenir d'une illusion. Hein. Et dans le premier chapitre de L'avenir d'une illusion, qu'il semble que mes collègues ne lisent pas bien, puisqu'ils ne lisent pas ce premier chapitre, vraisemblablement, Freud parle de l'expérience culturelle russe dans laquelle il place ses espoirs. Il place ses espoirs pour une réforme en profondeur, et il parle d'une grande expérience culturelle pour l'humanité. Hein. Alors, il dit qu'il s'abstient de tout jugement parce qu'elle n'est pas réalisée. Mais enfin, il critique pas du tout ce qui se passe en Russie, au contraire. Donc, que s'est-il passé de 27 en 29 ? Bon, il a certainement eu vent que ça tournait très mal en Russie. Hein. Il le dit aussi clairement quand on lit bien le malaise dans la civilisation, qu'il n'a plus d'espoir. Voilà. Bon. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que généralement, dans le champ analytique, en tout cas la transmission que j'en ai eue lorsque j'étais étudiant, c'est qu'on lit Freud généralement à partir du dernier Freud. Donc on lit Freud souvent à partir du malaise dans la civilisation. Donc on part du pessimisme anthropologique. On part de l'idée que l'homme est un loup pour l'homme et qu'aucune réforme n'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Freud, c'est vraiment le dernier Freud. L'œuvre de Freud est quand même aussi beaucoup derrière lui. Bon, il va encore produire beaucoup de choses, mais enfin, il a aussi écrit avant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, quand on part de ce dernier Freud, on fait l'impasse sur ce qu'il a fait concrètement dans la pratique dans les années 20. Vous comprenez, si on part du pessimisme anthropologique, du malaise, à quoi bon faire des polycliniques ? Hein ? On ne pourra jamais rien changer à cette nature humaine et à ce penchant à l'agression. Aucune réforme n'est possible. Donc, après tout, même pourquoi pas arrêter d'être psychanalyste. Hein, bon. Voilà. Mais si on suit et si on lit les œuvres en rapport avec le contexte géopolitique, là, on a une autre lecture est possible. Et à mon avis, une lecture plus vraie. Plus en conformité avec la réalité du cheminement freudien. Et du coup, le champ des pratiques, évidemment, peut être éclairé et des choses, des pans entiers comme les polycliniques, réapparaître. Hein. Donc Freud a plus d'espoir en 29. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque... quand on lit L'avenir d'une illusion, le livre juste avant le malaise, il précise que peut-être son espoir réformiste, il se peut que ce soit aussi une illusion. Et il dit, si c'est une illusion, je renoncerai à cette illusion. Et j'en reviendrai à une description du sujet comme étant essentiellement guidé par le désir d'agression. Hein. Donc effectivement, il applique son programme. Hein. Alors évidemment, en Russie, ça s'est refermé. Y a les nazis, y a les Italiens, le fascisme, il y a le fascisme en Autriche. Donc effectivement, les progrès de réforme sociale semblent bien mal partis. Hein. Alors peut-être il a oublié l'Espagne. Peut-être c'est ceci qu'on pourrait répondre à Freud. Hein. Voilà, donc. Il y a un revirement théorique très important dans l'œuvre freudienne en 29. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce revirement théorique, cette désillusion, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, va également avoir des effets dans la pratique. Hein, c'est ce que je vous disais en ouverture, hein, c'est que les concepts qu'on a dans la tête ou l'orientation qu'on peut avoir conceptuelle, évidemment, a des effets dans la pratique. Donc, c'est important de pouvoir bien articuler les choses. Qu'est-ce que va autoriser ce pessimisme ? Ou en tout cas, de quoi est-il contemporain ? Eh bien, il va être contemporain dans la séquence qui suit, qui est la séquence des années 30, et qui voit l'accession de Hitler au pouvoir. Il va être contemporain de l'adaptation de la psychanalyse au Troisième Reich. Et donc la polyclinique de Berlin, qui était, si vous voulez, un des endroits, un des phares de la psychanalyse et de son lien aux politiques, va être transformée en Institut Göring. Alors Freud... donc n'a plus d'illusion politique et pense à ce moment-là que la psychanalyse peut s'adapter au régime nazi. Alors il va charger Jones, qui est le président de l'Association internationale de psychanalyse à ce moment-là, de faire ce qu'il faut pour mettre en conformité avec le nouveau régime la société de Berlin. Voilà. Alors, cette nouvelle orientation, évidemment, rentre en parfaite contradiction avec la séquence précédente. Donc, vous imaginez bien que ça va... je parlais d'éclatement du champ analytique, et même on pourrait parler de déchirement subjectif pour les analystes eux-mêmes. Eux qui, pendant la décennie précédente, ont œuvré à rendre la psychanalyse gratuite et étaient engagés dans des mouvements politiques progressistes, la nouvelle orientation freudienne, qui n'est pas clairement assumée par Freud d'ailleurs, puisqu'il donne ses instructions à Jones, et qui est source du coup de beaucoup de malentendus et de complots, d'opérations en catimini, hein, dans le dos même parfois des collègues analystes de l'époque. Ça va être par exemple le cas de Reich, qui sera Wilhelm Reich, qui est un analyste de la troisième génération, qui était très impliqué dans la séquence des années 20 et qui va être tout simplement exclu, mais en cachette. En cachette, il sera exclu en 1933. Alors, on ne peut pas virer Reich comme ça, en 33, parce que Reich est trop important dans le champ analytique. À tel point qu'à l'époque, quand on lit les correspondances d'Anna Freud avec Jones, etc., cette exclusion ne peut se faire qu'en secret, parce que Reich, dans la séquence des années 20, est la figure de l'analyste. Et Anna Freud se demande même si Reich n'est pas l'avenir de la psychanalyse. C'est pour vous dire l'importance qu'il a dans cette séquence. Donc le champ éclate. Alors généralement, c'est précisément la figure de Reich qui est retenue dans l'histoire officielle pour montrer ce que précisément il ne faut pas faire. Hein, c'est-à-dire il ne faut pas mélanger l'huile et l'eau. la politique et la psychanalyse. Donc Reich ne va pas se soumettre à cette nouvelle orientation. Et on voit mal comment il aurait pu le faire. Il ne comprend pas cette nouvelle orientation, mais il n'est pas le seul. Contrairement au récit officiel où on présente Reich comme un isolé, un illuminé, en réalité, c'est toute la troisième génération d'analystes qui ne comprend pas cette nouvelle orientation, mais même la génération d'avant. Hein ? Puisque pendant toute la séquence antérieure, le but, au contraire, c'était d'inscrire la psychanalyse dans la cité. Donc, Fenichel également affirme son désaccord, etc., etc. Il y a une question. Vas-y.
Pour rebondir juste sur le fait qu'on leur demande une forme, enfin, il y a des exclusions de fait, on leur demande une forme d'abstinence politique, comme si c'est la neutralité, qui est en fait une sorte de pseudo-neutralité dont tu parles tout à l'heure, dont tu parlais au début, qui est en fait une position elle-même politique et réactionnaire, qui va finalement perdurer et qu'on retrouve quand ensuite tu parles aussi de Marie Langer, quand elle arrive en Argentine après l'exil espagnol, où il y a une séquence comme ça, une sorte de répétition dans l'histoire d'un grand espoir envers le progrès social et plein d'expérimentations, et une réaction, un exil, et ensuite un verrouillage qui est un verrouillage politique et pas du tout neutre.
Oui, alors... En réalité, cette séquence d'adaptation de la psychanalyse voit aussi la promotion d'un certain nombre d'arguments, arguments qui existaient, qui préexistaient à cette séquence des années 30, mais qui là aussi connaissent une sorte d'acmé. C'est l'argument de la neutralité. Vous trouvez ça dans un célèbre texte de Freud qui date de 1933, justement, qui est « La psychanalyse est-elle une conception du monde ?» La réponse, évidemment, de Freud, c'est non. Et donc, on peut lire ce texte comme on le fait lire aux étudiants ou comme on le lit dans les écoles de psychanalyse, comme un texte d'épistémologie. Mais en fait, ce n'est pas du tout un texte d'épistémologie. C'est un texte qui est écrit pour dire que la psychanalyse est neutre. Sous-entendu, elle est neutre politiquement. La psychanalyse, ce n'est pas Reich, parce que Reich, évidemment, lui, il va critiquer le pouvoir nazi. Il sort, lui, en 1933, oui, je crois, psychologie de masse du fascisme. Donc, il prend ouvertement position contre le régime nazi. Et Freud, lui, publie ce petit texte pour dire que la psychanalyse est neutre. Et dans le champ analytique, il y a au moins 5 ou 6 textes où les analystes qui sont sur cette nouvelle ligne cherchent à promouvoir l'idée que la psychanalyse serait neutre. Hein. Elle ne serait pas une conception du monde. Alors évidemment, là aussi, quand on connaît un peu le contexte géopolitique, on voit bien qu'il s'agit rien de moins que de neutralité à ce moment-là. Hein. Mais évidemment, dans l'idée que la psychanalyse survive sous le Troisième Reich, il faut montrer patte blanche. Alors il faut dire que la psychanalyse n'est pas politique, donc surtout c'est pas Reich. Et puis, les nouveaux analystes qui ont été promus à l'Institut de Berlin, qui sont Baum et Müller-Brinjvic, ainsi que Kemper. Kemper qui s'illustrera parce qu'il participera plus tard à la déportation des homosexuels. Donc, on a un bon triumvirat. Müller-Brinjvic, entre autres, va publier également un texte sur que la psychanalyse n'est pas une Weltanschauung. Alors, c'est un argument double. Elle est neutre, donc elle est ni rouge, la psychanalyse, ni juive. Hein ? Voilà. Donc, le sous-texte politique, il est clair. Après, le texte, quand vous le lisez, même là, dans les œuvres chez Gallimard, il n'y a rien là-dessus. Hein. C'est abordé épistémologiquement. Et effectivement, on peut le lire que c'est une science, enfin, comme dans les débats épistémologiques savants. Alors, vous voyez, en réalité, la psychanalyse est en crise. Elle cherche à trouver des voies pour survivre. Et donc, il y a bien une bifurcation là. Avec d'un côté la perspective de la sauver, le syntagme sauver la psychanalyse, il est dans ces années 30 aussi. Sauver la psychanalyse, c'est l'adapter. Hein. Ou au contraire, résister. C'est ce que fera Reich, qui ira encore plus loin dès les débuts des années 30 dans la fusion entre psychanalyse et politique, en ouvrant des institutions nouvelles qui ne sont pas des polycliniques, hein, qui est Sexpol, où il va essayer de faire en sorte que les masses qui plébiscitent Hitler repassent à gauche. Hein. La question des analystes comme Fenichel ou Reich à ce moment-là, c'est évidemment une psychanalyse en extension, dont on trouve bien évidemment les fondements chez Freud lui-même. Freud déjà avait étudié la psychologie des foules et l'analyse du moi. C'était une question des années 30 engagée, c'est de savoir est-ce qu'une politique de l'émancipation n'est pas également possible. Hein, c'est pas la politique, c'est pas forcément le désir du chef. Hein. C'est une partie possible, mais il n'y a pas que ça. Et de nouvelles questions sont formulées, des questions théoriques à cette occasion, qui est de savoir pourquoi finalement les masses vont voter pour Hitler et donc contre leur intérêt de classe. Hein. D'où l'idée que l'intérêt libidinal, la libido qui nous meut, hein, le sexuel, comme on dit dans mon jargon, peut ne pas recouvrir du tout l'intérêt de classe. Et donc Reich va aller... bon, déjà, pendant toute la séquence des années 20, il était à Vienne avec les ouvriers, les étudiants, les femmes qui faisaient des avortements. Enfin, bon, dans le bouquin, il y a tout un chapitre sur ce que fait Reich et sur ce qu'il apprend au contact des gens ordinaires, pas des grandes bourgeoises qui viennent faire une analyse. Ça lui modifie son regard de savant et c'est à l'occasion de son expérience clinique qu'il va se politiser, puisqu'au départ Reich n'était pas politisé. C'est l'expérience psychanalytique auprès des masses qui va le politiser. Et donc, il poursuit sa geste avec Sexpol et il va notamment dans la Ruhr au début des années 30, qui est une région ouvriériste où est acquis au nationalisme et au nazisme. Hein. Et il va faire des conférences sur la sexualité, sur l'avortement, sur toutes sortes de choses que les gens se posent comme question, mais qui n'a pas droit de citer à ce moment-là. C'est un peu l'action de Reich, c'est un peu l'ancêtre des plannings familiaux, si vous voulez, hein. Un travail de prévention, d'information. Et à cette occasion, il va connaître un certain succès, puisque un certain nombre d'ouvrières vont quitter les jeunesses hitlériennes pour rejoindre les jeunesses communistes. Hein. Évidemment, son écoute d'analyste n'est pas pour rien, hein, puisque dans l'idée de Reich, le refoulement sexuel sert le pouvoir du Duce ou le pouvoir d'Hitler. Et donc, si on agit pour lever le refoulement, alors l'idéologie et l'attente, la désirance pour le chef peut tomber. Voilà pour cette séquence des années 30. Alors, je disais tout à l'heure que Freud a peut-être oublié l'Espagne parce que il se passe beaucoup de choses en Espagne et un certain nombre d'analystes vont s'exiler. Souvent, on parle des analystes qui vont aux États-Unis ou en Angleterre, mais une partie d'entre eux vont en Catalogne. Et pas mal de proches de Bernfeld et d'Ecorn, qui étaient des analystes très engagés. Et c'est par cela que Toscaillès, dont je parlais en introduction, va être formé. Voilà le lien avec le début.
va peut-être pas explorer chaque chapitre du livre, mais peut-être tout ce qui est assez intéressant, parce que comme il y a le lien avec la board, avec peut-être aussi des expériences plus contemporaines, enfin là je pense à la board au SPK, qui a, enfin voilà, la board il y a quand même une continuité, le SPK ça a été complètement réprimé, fermé, alors que c'était une grande aussi expérimentation clinique et sociale. Est-ce que tu peux dire un mot un peu du SPK et un peu de la continuité de la board? Et en fait, j'aimerais aussi, parce que là, peut-être un moment, on va aussi passer la parole aux personnes
qui
auraient
des questions. C'est quand même mieux.
Mais quand même sur le point de vue contemporain, parce que là, on arrive un peu jusque dans les années 60, 70, 80, le tournant donc un peu de la psychanalyse chien de garde dont tu parles. Et donc aujourd'hui, un peu aussi, qu'est-ce qu'il en est de cette continuité-là?
Alors, vous voyez, c'est tout le XXe siècle en fait, et moi, je me suis contenté de localiser quelques petites expériences qui me paraissaient significatives, paradigmatiques. En réalité, chaque chapitre là pourrait certainement faire un livre, et peut-être il pourrait y avoir plusieurs tomes d'une histoire populaire de la psychanalyse, parce que c'est un vaste continent et qui a priori est pas du tout exploré. Et d'autre part, c'est aussi une histoire internationale. Il y a une figure qu'on n'a pas évoquée, mais peut-être dont il est important de dire un mot. C'est Marie Langer, qui est une jeune analyste féministe et marxiste dans les années 30, et qui est à Vienne, et qui se forme à la psychanalyse. Pour elle non plus, évidemment, il n'y a pas de coupure entre Marx et Freud. Et lorsque la neutralité politique est imposée aux analystes, elle s'en va. Elle s'en va, elle va rejoindre les brigades internationales en Espagne. Et puis, bon, vous savez, la révolution en Espagne aussi, la révolution internationale s'achève mal et s'ouvre sur une guerre des nations. Hein. Et Marie Langer s'exile en Argentine. Et donc il y a tout un courant en Amérique du Sud qui va être porteur de cette tradition psychanalytique impliquée, engagée. Et alors c'est très étonnant parce que Marie Langer elle-même témoigne de ce que je vous ai dit. Alors Marie Langer, juste un mot, elle n'est pas traduite, ce qui est également encore un symptôme. Hein, elle a écrit un livre où elle parle de sa vie et où elle témoigne de quand elle est arrivée en Argentine, comment elle a dû se taire et renier son engagement politique des années 30. Alors, elle a dû se taire parce que bon, elle n'avait pas de papier, que c'était une femme, qu'elle avait des enfants, que son diplôme n'était pas reconnu et qu'en plus, il y avait un dictateur. Donc, ça fait beaucoup de bonnes raisons de se taire. Mais une fois que l'association psychanalytique argentine a été créée, elle a longtemps milité en se ralliant à l'argument de la Weltanschauung, donc l'argument des années 30, que la psychanalyse n'est pas une conception du monde. Dans une espèce de militantisme psychanalytique pur, ce qui est quelque chose qui existe hein, toujours aujourd'hui. Et elle a fait son coming out dans les années 60 parce que sa fille voulait monter des brigades internationales par rapport à la guerre du Vietnam. Et comme elle savait que sa mère avait participé aux brigades internationales, elle la voit, et puis elle lui dit, écoute, maman, ce serait bien que tu viennes nous parler. Et là, c'est à ce moment-là que Marie Langer explique que tout son passé se l'est repris dans la figure. Il se trouve également qu'en Argentine, à ce moment-là, il y avait de forts mouvements sociaux, comme c'était le cas un peu partout dans les années 60, et des mouvements progressistes. Et elle fait son coming out, va faire sa propre autocritique. Et du coup, évidemment, elle va faire la critique de l'institution analytique et de cet argument de la pseudo-neutralité. Et ils vont lancer en Argentine un mouvement qui va créer une scission puisqu'ils vont partir de l'association psychanalytique argentine pour créer une psychanalyse dans les bidonvilles auprès des opprimés. Et elle va mettre en pratique, comme Reich, mais à partir d'autres modalités théoriques issues de la psychanalyse, elle va adapter la cure à en fonction de ces nouveaux réquisites pratiques. Hein. Donc dans le bouquin, je parle aussi de ça. Alors c'est une histoire, vous voyez, qui est un peu peut-être rhizomatique. Et qui est pleine d'échos. Parce que, par exemple, un écho important, c'est que l'Argentine, ça va mal tourner aussi. Et il se trouve que ceux qui avaient dirigé l'institut de Göring dans l'après-guerre vont être reconduits dans leurs fonctions par Ernest Jones, donc le président de l'époque, et notamment Kemper. Il va être chargé par Jones d'ouvrir, de créer une société psychanalytique au Brésil. Hein ? Alors, le Brésil, il y aura une dictature et certains analystes vont participer à la torture. Hein ? Donc, il y a des filiations comme ça, directes. Alors, Marie Langer, dans le pays voisin de l'Argentine, donc, va avoir vent de ça et va dénoncer l'analyste en question en demandant à l'IPA, donc l'Association internationale, de prendre parti. Et en fait, elle va être désavouée et même elle va être menacée de mort. Donc, elle va devoir s'exiler. Mais bon, elle va continuer son parcours d'analyste. Elle va rejoindre les sandinistes. Enfin, elle a tout un parcours tout à fait exceptionnel que je ne fais qu'aborder de manière très légère dans mon livre. Voilà, donc ça c'est... Et donc en Amérique du Sud, il y a toute une tradition qui est assez méconnue en France, d'une gauche freudienne qui est toujours vivante, mais dont aucun ouvrage non plus n'est traduit. Hein. Voilà, alors ça, c'est pour la version d'Amérique du Sud. Pour le côté français, ben, y a la clinique de la Borde, donc Tosqueyes, je ne sais pas, cette histoire est parfois un peu plus connue. Hein, Tosqueyes qui va être responsable des services psychiatriques sur le front en Aragon, qui va s'inspirer du modèle des comarcas. Hein, c'est les communes autogestionnaires pendant la séquence de la Révolution catalane. Dans certaines communes, l'argent est aboli et donc il y a une répartition des tâches et des moyens de production. Et ce modèle des comarcas, il va s'en servir lorsqu'il viendra en France, puisqu'il va s'exiler. Hein, il aura en charge l'hôpital de Saint-Alban en Lozère. Il va s'inspirer du modèle des comarcas. Donc l'hôpital de Saint-Alban, c'est un lieu, c'est un hôpital vétuste dans un petit village perdu où il se retrouve responsable. Il était médecin-chef, il est rétrogradé infirmier. Il va ouvrir l'asile, hein, commencer du commerce avec le village autour, faire du marché noir. C'est un lieu assez mythique parce qu'il y a tout un tas de résistants également qui vont venir se cacher là, comme Éluard, Canguilhem, le philosophe, Fanon, plus tard également, viendra aussi à Saint-Alban. Et donc, sous les pires années du pétainisme, il y a à cet endroit une pratique analytique où on travaille avec Marx et Freud. C'est aussi une plateforme pour les éditions de Minuit. Donc, il y a des clandestins qui viennent se cacher, les patients psychotiques et une vie intensément communautaire qui est organisée pendant cette séquence. Ce moment de Saint-Alban, on trouve sa continuité avec la clinique de la Borde en 1953 et Jean Houry et Félix Guattari, ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure. Et donc cette expérience continue toujours, puisque la Borde a essaimé en France. Il y a plusieurs endroits qui se revendiquent de cette orientation. Donc voilà, c'est vraiment une histoire. Alors il y a l'Allemagne aussi, le SPK, peut-être on pourra en parler, mais c'est encore autre chose, puisqu'en Allemagne, évidemment, la psychanalyse s'est compromise jusqu'au cou. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle, en Allemagne, ça ne va pas être le pays de la psychanalyse à l'après-guerre. Hein. Les choses vont plutôt se jouer en France autour de Jacques Lacan. Mais voilà, il y a dans les années 70 un renouveau de ces questions. Et il y a une expérience, notamment à Heidelberg, qui va également être tentée, mais malheureusement réprimée dans une violence tout à fait stupéfiante et qui peut-être doit être mise en résonance avec justement le spectre ou les fantômes du nazisme qui n'étaient pas bien liquidés. Hein, mais peut-être on pourra en reparler si vous le souhaitez.
Voilà, on peut passer à un moment de questions, si vous voulez, il y a un micro volant.
Bonjour, vous m'entendez ? Vous avez évoqué en introduction le fait de s'orienter peut-être à partir de cette histoire pour aujourd'hui peut-être faire acte de résistance, parce que quand même c'est vrai que dans les institutions on est un peu malmené aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus que des dispositifs, il n'y a plus de place, il y a... Et ce que vous dites sur Freud, là, ce qu'il a fait pour essayer de sauver la psychanalyse, j'ai l'impression qu'on est tous les jours confrontés à ça quand on travaille dans une institution. C'est-à-dire que tous les jours, je me dis comment je résiste. Est-ce que je résiste comme un résistant dans le maquis, ou est-ce que je résiste comme un fonctionnaire de mairie qui fait des faux papiers? Et donc, effectivement, j'accepte d'avoir l'air d'être neutre pour pouvoir continuer à être là, finalement. Et peut-être que... Enfin, je sais qu'il y avait Isabelle Stenger qui était là hier soir, et peut-être qu'elle elle invite à ne pas opposer les approches, mais plutôt à réfléchir à comment elles s'articulent, comment on peut articuler différentes positions qui peuvent être des positions de résistance. Moi, c'est ça un petit peu qui m'intéresse dans ce travail. Parce qu'on entend que ceux qui sont... Tout ce qu'il y a, finalement, c'est le descendant de ceux qui ont pris la fuite... Donc ça pourrait inviter à prendre la fuite, mais en même temps, il y a peut-être quand même une place à continuer à occuper.
Ben, la difficulté, en tout cas dans la séquence des années 30, où l'argument de la neutralité est vraiment promu, c'est que Freud, comme Jones ou les autres, ne sont pas du tout dans une perspective de résister secrètement, de dire on est neutre et en fait de faire autre chose. Ça fait une vraie différence. Alors, si, il y a une part de stratégie, mais Freud a plus d'illusions. C'est-à-dire que quand on regarde sa conception, l'homme est un loup pour l'homme. Enfin, vous voyez, c'est pas le cas avant. On peut dire on est neutre et en fait de ne pas l'être dans la pratique. Ça, c'est de la... Soit on ment, soit on subvertit, si vous voulez. C'est peut-être très bien, si on n'a pas le choix. Brassens, il disait « Je suis anarchiste, mais quand il y a un policier, je passe sur le passage clouté. » Bon, après, quand le policier n'est plus là, vous passez où vous voulez. Mais le problème de la séquence des années 30, c'est que ce n'est pas du tout assumé explicitement comme une stratégie. Et d'ailleurs, beaucoup d'analystes s'opposent. Eddington, qui est... dont Jones dit qu'il représente la psychanalyse au niveau international, donc c'est dire quand même... Eddington, qui est donc le responsable de la polyclinique de Berlin, il voit ses collègues qui sont en train de lui dire « Écoute, faudrait que tu démissionnes. » Et lui, il dit « Mais ça va pas. Moi, je ferme l'institut. On va pas... En plus, les nazis nous ont même pas demandé que je démissionne. Donc, on va pas anticiper ce qu'ils veulent. » Du coup, comme Jones, Müller-Brinjvic et tout ça le poussent, il écrit au professeur Freud « Cher professeur, je comprends pas. Il semble que mes collègues voudraient que je démissionne, mais moi, il n'en est pas du tout question. Moi, on fermera si on me l'impose Et puis, il n'est pas question que ça dure. Ça ne peut pas. Et Freud lui répond si, si. Alors, évidemment, il ne lui dit pas si, si. Hein. Dans le livre, je relate la correspondance. Freud lui propose en réalité trois solutions. Mais ça revient au fait qu'il faut adapter la psychanalyse et qu'elle peut survivre aux institutions nazies. Ce n'est pas du tout l'avis d'Eddington, qui, lui, va s'en aller en Israël pour ouvrir une polyclinique sur le modèle de Berlin. Donc beaucoup d'analystes s'en vont parce qu'ils ne veulent pas. Et plusieurs propositions sont faites pour qu'on ferme l'Institut de Berlin et l'Institut de Vienne. Or, ces propositions vont être refusées par Freud. Il y a aussi des analystes qui vont démissionner en soutien avec l'exclusion des Juifs. Hein, des analystes ariens, en tout cas pas juifs, hein, ou pas rouges. Mais ça, on en parle très peu. En réalité, il y a vraiment une fracture qui mériterait une plus grosse loupe pour voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a une variété de positions. Il y a Rittmeister, je prononce affreusement mal, qui, lui, va rentrer dans la clandestinité. Alors, il va rester dire d'accord, je suis neutre, et en fait il va être résistant, il va organiser un puissant réseau qui est Octobre Rouge, hein, et donc il va être double, mais il y en a peu en fait, hein. Mais tout ça mériterait effectivement qu'on regarde de plus près. Donc par rapport à la question sur le contemporain, excusez-moi, mais c'est des nuances importantes. Quand je suppose que quand il y avait des contrôles par les pétainistes à Saint-Alban, si jamais ils venaient là-bas, tout le monde montrait patte blanche. Et puis bon, ils repartaient et puis on continuait. Donc moi, je sais pas. C'est pas la question. C'est celle plus d'une position subjective aussi par rapport aux ordres qui sont donnés. Et au fait d'assumer tranquillement et de faire la part des choses. Vous savez, même à la clinique de la Borde, où j'ai travaillé quelques années, il y a maintenant une dizaine d'années, on avait des inspections de l'ARS avec les normes de qualité et tout ça et tout ça. Et du coup, quand ils venaient, on se mettait aux normes. Puis quand ils partaient, on refaisait comme on faisait. Alors le fait de remettre toute une institution aux normes, c'est aussi intéressant cliniquement. Vous voyez, parce que même les patients, même nous, il faut qu'on réapprenne des gestes, parce que par exemple, on fait pas de gâteaux avec des vrais œufs. Hein, c'est très dangereux les œufs. Et pour la qualité, il faut des œufs en poudre qui sont déjà conditionnés par des et pas les œufs du poulailler d'à côté qu'on fait avec les psychotiques. Hein. Donc voilà. Après aussi les inspecteurs qui sont venus, ils avaient leur grille, on les avait lus. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient bien en deçà de ce que nous, on faisait. Et que le patient était beaucoup plus au centre que ce qu'eux, ils disaient. Pareil, la restitution de la réunion, on leur a dit, ça ne sera pas qu'avec les cadres ou les soignants. Ce sera avec tous les patients. Alors évidemment, s'ils parlent devant 200 personnes, si vous voulez, et qu'ils disent, par exemple, ça ne va pas à la clinique, et comme les patients aiment bien l'endroit, il y a un mouvement, si vous voulez, dans la salle, donc il faut quand même attention à ce qu'ils disent. Donc il y a plein de... Il y a tout un jeu possible, malgré tout.
Et merci de votre travail qui touche avec l'histoire à une dimension essentielle, puisque ça touche à... Je ne sais pas comment on pourrait dire... à l'idée que la psychanalyse se fait de la vérité. Donc, si on forclôt l'histoire, il y a un gros problème. Bon, c'est une remarque et pas de moi hein, que Lacan fait dans, je crois, dans la science. Mais que je partage. Mais après, j'ai évidemment, ça dépend de là où on est dans le champ social par rapport à ces questions. Il y en a une, c'est quelque chose qui m'a arrêté d'entrée de jeu dans votre présentation concernant la psychose. Parce que quand même un constat que font les analystes aujourd'hui, c'est que se présentent à leur cabinet de plus en plus de psychotiques, qu'ils sont de plus en plus visibles dans le champ social, Je pense que c'est d'une part lié à la fermeture des lits, puisqu'on apprend aujourd'hui que 20% des lits sont fermés, et que donc des services sont fermés, des blocs sont fermés. Mais c'est aussi sans doute lié à quelque chose que vous avez souligné, qui, bon, moi je dirais ici, là, tout simplement, la dégradation du lien social. C'est pas que ça fabrique des psychotiques, mais c'est que ça défait sans doute les solutions qui leur permettaient de se tenir et de pouvoir vivre comme tout le monde. Bon, en tout cas, pour ceux qui se déclenchent. Donc, c'est une remarque, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, j'en ai une deuxième. Moi, ça fait... Pardon, hein, je fais partie de cette génération un peu plus vieux que vous.
Non, il y a des gens très bien.
Bon, je n'étais pas dans ce sens-là. Mais ça fait 45 ans que je travaille avec des gens pour qui la question politique a été essentielle. Au point d'ailleurs, pour ce qui me concerne, de me disputer férocement avec comme celui, la marmelade, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, Jacques Alémier, bon. Je dis la marmelade à cause de Jam. Hein, et alors, il y a quand même des noms marquants, comme, je ne sais pas, spontanément, je pensais à Serge Leclerc, je pensais à Castoriadis, je pensais à Pierre Bruno et à Sol Lacan, Passeur de Mars, et je crois qu'il y en a d'autres. Il me semble qu'il y a quand même une tradition qui s'est maintenue et qui n'a pas du tout interprété le... La psychanalyse n'est pas une conception du monde comme une recherche de neutralité. On ne peut pas faire long. D'ailleurs, au passage, j'ai vu que vous citiez Cox et sa psychanalyse sur le Troisième Reich. Il fait une remarque que peu de gens relèvent, à savoir que, contrairement à ce que dit Lacan d'ailleurs, tous les psychanalystes n'ont pas fui pour fabriquer une psychologie adaptative aux États-Unis. Il y en a quelques-uns qui se sont retrouvés en camp de concentration, et au moins un dont je regrette d'avoir oublié le nom à l'instant, là, qui jusqu'à sa mort, on ne peut pas dire qu'il a psychanalysé ses collègues, mais il a soutenu les gens avec qui il était en camp de concentration jusqu'à la mort. Donc je veux dire, il y a quand même des gens pour qui l'engagement... dans cette époque-là. La dernière remarque, elle touche à la question de la résistance, parce que moi, je suis très sensible à cet aspect-là. Quand même, il y a une résistance que nous devons à Freud et qui ne dépend pas simplement de la volonté du sujet, de son engagement politique, qui est nécessaire. Et moi, je partage cette idée. C'est le symptôme. Et ça, je crois que Freud le dit dans un article qui s'appelle... Névrose et psychose, c'est un article tardif dont Lacan a extrait un syntagme mais qui ne se trouve pas dans Freud. Alors, je ne sais pas comment se fait l'opération. C'est celle de protestation logique du sujet. On ne se laisse pas formater. Malgré tout, ça résiste. Je veux dire, quand quelqu'un vous dit « Oh, ça, c'est bien toi », enfin, si vous êtes comme moi, vous avez envie de filer des gifles. Il faut rentrer chez soi pour dire « Bon, peut-être il avait un peu raison quand même. » Mais ça proteste contre tout ce qui nous enferme. Bon, c'est juste des remarques, vous voyez, des associations d'idées, mais j'en ai plein. Vous allez me faire travailler. Merci.
Oui, merci pour vos remarques. Peut-être sur le deuxième point, je vous rejoins. Il y a évidemment toute une tradition qui persiste, et c'est d'ailleurs l'objet du livre. Ce qui m'est apparu en plus, c'est que cette histoire, elle me semblait minoritaire, mais en fait, elle n'est pas du tout minoritaire. Elle est juste minorée, ce qui n'est pas du tout pareil. Évidemment, dans le champ du lacanisme, il y a une variabilité également et des disputes, peut-être qui n'ont pas, je trouve, qui n'ont pas lieu assez. Enfin, on voit bien qu'il y a des courants différents quand on est un peu spécialiste, mais il y a rarement, je trouve, ou peut-être pas assez de disputes un peu savantes sur le fond. Dans le premier bouquin, d'ailleurs, j'essaye de mener un peu cette dispute. Mais plutôt en venant de l'analyse institutionnelle de Félix Guattari et d'un certain dernier Lacan, mais bon, là, c'est des trucs d'exégète. Mais effectivement, il y a Castoriadis, il y a effectivement l'école de Toulouse des Lacaniens, bien sûr. Alors, ce que j'ai essayé aussi dans ce livre, c'est de parler vraiment des pratiques et de plus que des arguments savants. Mais évidemment, l'un ne se détache pas de l'autre, mais tente d'essayer de refaire émerger une histoire des pratiques. Voilà. Mais évidemment, on pourrait tirer plusieurs fils, et il y a tout un tas de courants et de personnalités qui pourraient figurer. C'est pour ça que je disais qu'il pourrait y avoir plusieurs tomes, hein, en fait. Oui. Mais je, c'est pour vous dire, moi non plus, c'est pas une objection. Je précise les choses et je suis plutôt d'accord avec vous. Après, sur le symptôme, évidemment, je suis d'accord. Hein, partout où il y a oppression, en plus, il y a résistance, comme disait mon premier analyste. Hein. Voilà. Donc, oui.
Bonsoir, merci pour la présentation. Moi, je suis soignant dans une institution toulousaine. Et alors, je suis arrivé dans le service où je suis aujourd'hui par la lecture de Lucien Bonafé.
Ah oui.
Et il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup troublé et qui continue à me troubler aujourd'hui, c'est que dans l'institution, on a une orientation psychanalytique, il n'y a pas de doute. Mais il manque la deuxième jambe, la jambe marxiste. Ou marxienne, je ne sais pas comment il faut dire. Et donc, ouais. Je suis un peu troublé parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de parole publique de l'institution pour interpeller la société. Donc, on soigne l'individu comme on peut, on fait ce qu'on peut. Mais par contre, on ne fait pas sa place dans la société, alors qu'on est un observatoire, alors qu'on est quand même légitime à prendre la parole et à accompagner les patients aussi dans leur place dans la société. Et ça m'interroge beaucoup. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des penseurs comme dans les années 70, ceux que vous avez cités, qui prennent la parole. Alors peut-être il y a Mathieu Bellassène, il y a quelques-uns comme ça, mais ils sont quand même très, très isolés et je suis un peu troublé. Voilà. Merci.
Oui, alors c'est marrant parce que Bonafé, lui, il n'était pas pro-psychanalyse, paradoxalement. Lui, c'était vraiment la psychiatrie, la désaliénation et dans la cité. Il a vraiment une conception assez intéressante. Donc... Bon, là, vous dites c'est l'autre jambe qui manque, mais c'est intéressant puisque Bonafé, la psychanalyse, il était très méfiant, hein, et peut-être à certains égards, il n'avait pas tort. Bon, mais oui, après, c'est vrai que le contexte actuel est peut-être pas favorable à des prises de position officielles. Après, il y a tout un tas d'endroits où il se passe des choses malgré tout. Vous avez cité Mathieu Bellassène, mais il y a aussi Abbeville avec Christophe Chaperot, il y a à Reims, enfin il y a tout un tas d'endroits. Bon, alors c'est plutôt à chaque fois la psychothérapie institutionnelle qui est toujours là. Hein. Il faudrait faire une cartographie peut-être un jour plus précise, mais il y a quand même toute une culture qui existe toujours. La difficulté, il me semble, c'est que souvent les analystes qui ont pu être formés dans une approche qui faisait pas de place aux politiques, même c'était un a priori, hein. Monsieur a cité tout à l'heure Jacques-Alain Miller, et c'est vrai, hein, c'est une école très importante. Quand on a été formé là-dedans, évidemment, on peut ne pas être d'ailleurs complètement mauvais analyste, hein, par ailleurs, mais il manque effectivement une dimension. Donc, je ne saurais pas vous dire plus. Peut-être ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant, c'est que les analystes se réapproprient aussi leur histoire. Et le moment politisé dont je parle, au-delà de leurs écoles, en fait, et au-delà même des avancées théoriques très contemporaines, des analystes qui réfléchissent avec les concepts, et c'est très important, hein, je ne critique pas l'exégèse, moi-même je le pratique, dans ce livre beaucoup moins que dans l'autre, mais quand même, pour s'intéresser aux pratiques aux pratiques des années 20, aux pratiques de la psychothérapie institutionnelle, car en réalité, il y a vraiment un horizon commun, et peut-être la diffraction en école, à partir des années 80, en tout cas pour le champ français, quand même, ça, il y a quand même, je ne suis pas spécialiste, mais il y a quand même une inflation et des schismes de tous ordres, et parfois un repli dans l'exégèse, qui fait que peut-être les analystes ont oublié leur histoire au niveau de la pratique. Et peut-être, ça serait pas mal si ce livre pouvait réouvrir cet enjeu. C'est aussi le but, en fait.
Alors, je vais essayer de faire court. On m'entend, là ? Oui. En fait, je voulais dire ce par quoi vous avez terminé. Moi, j'ai commencé à lire votre livre, mais je ne l'avais pas terminé. Je suis arrivée juste à Reich. Et j'ai découvert plein de choses. J'ai l'impression que, justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a cet oubli de l'histoire de la psychanalyse comme processus de pensée qu'on a un symptôme ou actuellement, particulièrement en ce moment, il manquerait une dimension politique dans l'analyse de... Alors moi, je ne dirais pas que des psys, moi, je ne suis pas psy, mais je suis très en difficulté. Là, je vais reprendre ce qu'a dit la dame. Alors, les institutions, moi, je pense au CMPP, hein, essentiellement, mais... Voilà. Oui, alors... moi, je ne suis pas dans cette pratique-là. Moi, je suis même en libéral, mais je ne suis absolument pas libérée, justement. Et je trouve que c'est bien plus profond et insidieux. C'est-à-dire je ne trouve pas, moi, comment faire du jeu, dans le sens où on nous demande des diagnostics, où pour les enfants et les familles, il y a déjà des orientations avec obligation de diagnostic qui fichent des choses et qui donnent des obligations de soins. Alors, j'aimerais bien savoir comment, en psychiatrie institutionnelle, on fait pour mentir, pour cacher. Ou... Parce qu'en plus, on a des patients qui nous demandent des diagnostics.
Ah oui, pour ça, c'est encore autre chose.
Eh ben oui, mais ça, c'est mon quotidien et ça m'atteint chaque jour.
Je ne sais pas si je pourrais vous répondre. Je n'ai pas vraiment de solution. Non, déjà, concrètement, ça dépend où est-ce que vous êtes. Et puis, ça dépend du chef local aussi. Hein. Comme les choses sont organisées, les institutions sont organisées de manière hiérarchique. Si vous avez un chef local qui est un peu éclairé, qui n'a pas trop peur et qui autorise aussi une certaine liberté, les choses peuvent être plus simples. Si vous avez quelqu'un qui a peur des protocoles, qui vous contrôle et qui veut obéir à l'ARS, évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais c'est toujours très local, en fait, les marges qui peuvent être inventées. En tout cas, d'après mon expérience institutionnelle. Mais on peut avoir pas mal de marges, comme on l'évoquait tout à l'heure. Faudrait voir plus en détail.
Non, vous voyez, je ne sais pas si c'est le lieu.
Voilà. Enfin, en tout cas, une grande institution comme la Borde, où je sais pas, il y a au moins 300 ou 400 personnes, on subvertissait complètement tout. Hein. Je ne sais pas où ils en sont en ce moment, mais ça tenait aussi que le personnage fondateur, qui est Jean Houry, était toujours là. Ça suppose aussi que la personne qui est responsable légale, s'il y a un problème, l'assume. Vous voyez, donc, mais ça se fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'être Jean Houry, quoi, parce que bon. Hein, ça... Bref. Donc, c'est tout à fait. Voilà. Et puis, même s'il y a un chef qui n'est pas comme ça, on peut toujours faire quelque chose, même dans son coin. Hein. Moi-même, je l'ai fait longtemps. J'étais tout seul. C'est d'ailleurs l'objet du premier livre. Tiens. Comment mener une cure dans un lieu hostile ? Dans un lieu où l'inconscient n'existe pas ? Dans un lieu où juste la parole, vous voyez, ça déclenche une hostilité. En psychiatrie ordinaire, quoi, vous voyez. C'est possible. Bon, faut être un peu lesté, un peu tranquille. Faut supporter de prendre quelques coups. Mais bon, on vous enferme pas normalement, ni on vous met encore de, on vous met pas sur une chaise électrique, on vous met pas une caméra dans votre bureau. Enfin, vous voyez, il y a encore pas mal d'étapes.
Du coup, je sais pas si on m'entend. Alors, question très ouverte parce que je m'y connais beaucoup moins que vous, ça c'est sûr. C'est parce qu'au début vous avez parlé des études de genre et je pense que c'est moi c'est un point qui m'intéresse. Quelle place est-ce que vous pensez que ça peut avoir dans la psychanalyse, dans le futur de la psychanalyse? Est-ce que ça a une place et est-ce que vous c'est quelque chose auquel vous apportez de l'intérêt et est-ce que d'un côté dans ces études de genre ça apporte pas une autre couche qui permet de mieux comprendre la psychanalyse dans le milieu social actuel, on va dire, mais enfin qui était certainement aussi valable avant, mais est-ce que dans l'actualité ça s'impose pas de pouvoir intégrer les études de genre et les théories, pas forcément les études, mais les théories de genre qui sont développées actuellement et qui sont de plus en plus influentes, je pense.
Alors moi je suis pas du tout spécialiste sur ces questions hein, parce que on peut pas tout faire. Mais oui, c'est très intéressant. Ben là, il y a en présentation un livre, la Queer Psychanalyse. Voilà, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ça. Hein. Donc oui. Après, évidemment, il y a tous les analystes que je critique, qui sont farouchement opposés à ça. Il me semble que l'analyste normalement doit être ouvert sur son temps. Et accueillir l'époque. Il semble qu'une partie des analystes installés depuis un certain temps sont fermés à l'époque, hein. Ce qui est problématique évidemment. Mais heureusement, et d'ailleurs je cite quelques ouvrages où au contraire il y a cette ouverture. Hein. Oui, genre postcolonial, enfin tous les trucs que normalement il faut pas faire.
On va devoir arrêter l'instant, mais la discussion peut se continuer de façon informelle si jamais, mais voilà, il va falloir qu'on range. Mais merci à tout le monde d'être venu, merci à Florent.
Merci à vous, merci.
Sur livre dormir.